France Inter.
Le dessin m'a jamais paru autant pertinent qu'en ce moment, comme antidote aussi à tout ce que nous envoie l'actualité, les médias, Twitter, etc. Refabriquer ses propres images, même à partir des drames du réel, c'est une manière de redevenir acteur de notre existence. La question, c'est on vit dans cet univers, on va essayer de pas tous s'entretuer, et le dessin, c'est une bonne manière de donner de la valeur aux êtres humains, de donner de la valeur aux vivants, sans avoir besoin du bon Dieu.
Le conflit israélo-palestinien, comment le comprendre? Comment en parler? Comment, quand on est artiste, l'évoquer au plus près de ce que vivent les Juifs et les Palestiniens depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023? Le dessinateur Johann Sfar s'est posé ces questions, pas plus qu'un autre. Il ne dispose de super-pouvoirs permettant de répondre avec assurance, encore moins avec arrogance, non, mais il s'est rendu à Jérusalem, à Ramallah, Hébron, Naplouse, en plus de Jérusalem, Tel Aviv, pour voir, pour entendre. Avec ses crayons et sa tablette, il rend compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu dans Terre de sang, Le temps du désespoir, aux arènes BD, dernier volume d'une trilogie consacrée à l'identité juive. Bonjour Johann Sfar.
Bonjour.
On va parler de ce travail de Tintin Reporter qui vous a pris 2 ans de votre vie. Travail effectué dans un monde fracturé, blessé, insatisfait, désespéré. Vous aimez la politique, vous aimez le débat, vous aimez la peinture, la BD bien sûr, mais aussi la musique. Elle est présente dans votre roman graphique et elle va s'inviter cet après-midi en studio avec votre invité, Franck Anastasio. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous êtes guitariste, je vous ai découvert dans le groupe Les Yeux Noirs, aux côtés des frères Slabiak. Vous accompagnez aussi d'autres artistes, vous êtes l'un des gardiens de la musique tzigane, de la musique yiddish, entre autres. Et il est venu, Johann, avec un autre musicien, présentez-le nous.
Avec mon ami Steven Reinhardt.
Bonjour.
Bonjour.
Steven qui est un immense guitariste et ce sont des amis proches et je suis toujours si heureux quand il m'accompagne.
Il a fait 4 heures de train pour venir avec nous cet après-midi dans le Grand Atelier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et bienvenue à tous dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier, Vincent Josse.
Johann Sfar, quel petit garçon étiez-vous ?
Je dessinais, je pense que j'étais à peu près le même qu'aujourd'hui. Je ne comprends pas grand-chose au monde. Dès qu'un truc m'angoisse, je me mets à le dessiner, puis ça va mieux.
Vous avez besoin de comprendre le monde ?
Oui, ou en tout cas de réelle présence, de me mettre près d'individus, de les dessiner, de les écouter, voir si ça fait sens au bout d'un moment.
Est-ce que ça veut dire que vous aimez les gens ?
J'ai dit ça à Sampé, je lui ai dit, mais il y a tellement de tendresse dans ton dessin, on voit que t'aimes les gens, il dit pas du tout, je les dessine pour les supporter.
Est-ce que c'est un peu la même chose quand on est Johann Sfar ?
Le dessin crée de l'empathie, le dessin brise tous les a priori qu'on peut avoir sur l'autre, et ensuite l'autre n'existe plus, on a des semblables.
Et puis vous aimez aussi être reporter régulièrement, vous déplacer, voir, entendre, essayer de comprendre, même si on comprend pas tout, j'imagine, d'une situation, encore moins celle du Proche-Orient.
Oui, j'essaie d'éviter les idées, les symboles et les synthèses. Je vais voir des gens, je les dessine, je ne suis pas journaliste. Donc je raconte ce que ça me fait par rapport à ce que je sais de la région, par rapport à mon identité juive, par rapport à mon rapport à Israël, au monde palestinien que je ne connaissais pas. Donc je n'ai pas de solution. En revanche, j'écoute ce qu'on me dit et je crois que je le retranscris assez fidèlement.
Je vous pose la question du petit garçon parce que j'étais sûr que vous dessiniez depuis l'enfance. Vous étiez dans votre monde. Je précise que vous avez perdu votre mère quand vous avez 4 ans et que certainement le dessin était un refuge.
Oui, ça a permis de créer des visages dont j'avais besoin. On m'a dit qu'elle était partie en voyage. Donc je vis dans cette espèce d'attente. Et c'est vrai que j'attends beaucoup de mes semblables quand je les rencontre. Et le dessin crée des magies, que ce soit des magies amicales, des magies amoureuses. J'ai jamais eu de mauvais souvenirs grâce au dessin.
Et l'enfant, il est aussi présent dès le début de ce troisième volume, Terre de sang, parce que vous dites à quel point vous avez eu des héros dans votre famille, la grand-mère et le grand-père. Est-ce qu'on peut au moins raconter le courage, la témérité, l'audace, l'inconscience de votre grand-mère pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Oui, c'est vrai. Donc ma famille maternelle, ce sont des Juifs d'Europe de l'Est. Mon grand-père venait d'Ukraine, il est arrivé dans les années 30. Et ma grand-mère a passé toute la guerre à faire passer des gens d'un maquis à l'autre. Mon grand-père a terminé médecin de la brigade Alsace-Lorraine. Et pour eux, ça allait revenir. Ils m'ont élevé dans l'idée qu'on aurait quelques années tranquilles et que ça allait revenir. C'était des pessimistes joyeux. Et ma grand-mère a eu des vrais faux papiers dès le début de la guerre. Elle est allée c'était près d'Annecy. Elle est entrée à la préfecture et elle a dit « Vous allez me faire des faux papiers, sinon on va nous déporter. » Et l'employée de mairie ou de préfecture a dit mais oui.
Pas seulement pour elle, pour toute la famille.
Pour toute la famille. Et alors, elle était très fière de dire que pendant toute la guerre, le chef de la Gestapo se levait pour la laisser s'asseoir. Chef de la Gestapo qui a été arrêté ou plus par mon grand-père à la fin de la guerre.
Incroyable.
Oui.
Ces suites d'histoires dans votre famille. Il y a aussi le grand-père circoncis dont on voulait voir le sexe. Les nazis et les policiers français avaient arrêté le bus pour vérifier les sexes de tous les petits garçons. Il s'est sauvé par la fenêtre. Oui. Et ça aussi, c'était raconté dans la famille.
C'était une histoire banale parce qu'elle est arrivée à beaucoup. Il s'est sauvé par l'arrière du bus parce qu'on baissait le pantalon des hommes, y compris des enfants, pour voir s'ils étaient circoncis. Ce qui explique que j'ai pu être un peu rigide face à certaines plaisanteries sur les prépuces.
Oui.
Blague que j'aurais pu faire moi-même, mais j'aurais préféré que ce soit moi qui la fasse.
Vous achevez une trilogie, il y a eu « Nous vivrons », il y a eu « Que faire des Juifs » et aujourd'hui « Terre de sang ». Ce sont vraiment trois gros ouvrages que la tragédie du 7 octobre 2023 a fait naître chez vous. Est-ce qu'il y a une question qui sous-tend ces trois volumes?
Oui. Qui vit là-bas? Qui vit là-bas? Moi, je viens d'une famille juive, j'ai grandi dans un narratif très sioniste, très pro-israélien, toute ma famille est israélienne. Dès après le 7 octobre, je suis allé là-bas pour voir tout simplement comment ils allaient. Les premiers mots que j'ai écrits le 7 octobre, c'était « Les assassins des deux camps sont des alliés objectifs ». Et dès « Nous vivrons », j'ai essayé de faire parler également des voix palestiniennes, mais il y en avait peu dans « Nous vivrons ». Et je me suis dit qu'il serait indigne de terminer cette trilogie sans voix palestinienne. Et donc, dans « Terre de sang », j'ai eu la chance d'être accueilli par beaucoup de monde dans les villes palestiniennes. Il y a des endroits où j'ai beaucoup remis en cause des choses que je pensais savoir ou que je pensais connaître. Je ne connais pas la société palestinienne, même après un an de reportage, mais je comprends mieux la façon dont ils se racontent les choses, qui est tout aussi valide que ce que raconte le camp d'en face. Et il y a une fidélité au récit des parents et des grands-parents qui rend pratiquement l'espoir impossible. C'est-à-dire que tout le monde est prêt à mourir pour les conneries que disaient les parents et les grands-parents. Et donc je ne suis pas neutre. J'arrive avec mon histoire, j'arrive avec ma subjectivité, mais je tente d'être honnête quand les gens me racontent leur quotidien.
Il me semble qu'il y a autant de tristesse chez les Juifs que chez les Palestiniens. Elle est présente, elle est presque dessinée, elle est presque un personnage de votre BD.
Oui, il y a la certitude que rien ne va marcher. Dès qu'on dit quelque chose de généreux, on va vous dire « mais tes amis gauchistes, c'est eux qui se sont fait tuer le 7 octobre ». Dès que côté palestinien, on va évoquer quelque chose qui a l'air de marcher, on te répond « non, mais rien ne va marcher de toute façon ». Parce que j'étais évidemment avec tous les journalistes francophones qui sont là-bas. L'un d'eux m'a reproché de donner autant d'importance à un représentant de l'autorité palestinienne et à un taxi palestinien. Mais c'est ça mon travail, c'est de me demander si entre ce que raconte le taxi et ce que raconte le grand monsieur, il y a quelque chose en commun. Et évidemment, j'ai trouvé des choses communes.
Mais c'est ce que vous cherchez, les choses communes. Hein?
Oui.
Vous cherchez à rapprocher les gens.
Oui.
Y compris les lecteurs, peut-être.
Oui, parce que tout ça revient sur l'Europe. L'histoire des Palestiniens, l'histoire des Israéliens, elle est tellement importante symboliquement pour l'Europe que ça nous interroge sur nous. Est-ce que, de manière moindre, les problèmes qu'ils ont là-bas, on les a pas un petit peu ici aussi? Des problèmes de haine, des problèmes de refus de l'altérité, des problèmes de vieux récits qu'on se répète alors qu'ils n'ont plus aucun sens. Mon amie Éléonore Veil a été très importante dans cette trilogie, ça a été la conseillère technique et bien plus que ça. Je l'ai appelée il y a 2 semaines, je lui ai dit « il faut absolument que tu fasses un livre sur l'histoire de la paix au Proche-Orient ». Et elle s'est énervée, elle a dit « mais les historiens, maintenant on s'en fout. Ça fait 2 ans qu'on bosse tous avec des historiens, il faut aujourd'hui se demander qui est en mesure, à ce jour, si j'étais heideggerien, je dirais dans l'être-là, de faire quelque chose. Et il y a une nécessité à s'interroger sur le présent. Vous me parliez d'enfants. Quand j'étais en Cisjordanie, dans ces fermes où les Bédouins se font détruire leur maison par les colons toute la journée, ce sont les visages d'enfants qui m'ont obligé. Des enfants qui me regardaient depuis une balançoire. Ces enfants, ils pourraient être en banlieue parisienne, ça pourrait être mes enfants. Et la manière dont ils me regardaient, moi j'étais rien, j'étais juste le gars qui dessinait, puis j'ai fait le portrait d'un gamin, ça m'oblige quand je rentre. On sait qu'on est inutile, mais il faut tout de même transmettre des portraits, transmettre des récits, au moins pour garder intact l'idée qu'il y a des interlocuteurs dans les deux camps.
Et tout ça, ça se dessine, parce que moi, je vous interroge avec la lecture de votre roman graphique et on vous voit distribuer des dessins d'enfants à des enfants, comme un devoir, finalement.
Bah, d'abord, on m'utilise. Dès que je suis dans une famille d'amis, on met les grandes personnes entre elles. Et moi, on me colle avec les gosses et je dois dessiner des chats, des éléphants, des machins pour les enfants. Je ne parle pas arabe. Et en hébreu, je sais juste dire « khatoul », c'est le chat. Donc je fais des chats. Ça tombe bien, je fais le chat du rabbin.
Oui, on vous sent embarrassé par la langue.
Et là, il y a un point commun dans les deux sociétés qui me va très bien. C'est que ce sont des sociétés d'enfants qui ont assez peu d'autocensure quand il y a question de demander un dessin. Et donc, c'est pas un dessin, il faut faire 100 dessins par enfant. Et en même temps, dès qu'ils prennent un crayon, je suis le plus heureux au monde. Et j'ai toujours ce lien au récit enfantin, aux questions enfantines aussi. Je suis un peu... Un point commun des Palestiniens et des Israéliens, toutes les phrases commencent par « tu dois comprendre que.
Ah, oui.
Ils ont chacun un credo qu'ils veulent absolument, en hébreu ça s'appelle Asbara, je ne sais pas comment ça s'appelle en arabe, et moi je suis comme l'inspecteur Colombo, je fais exprès de rien comprendre du tout. En revanche, je note bien ce qu'on me dit.
Oui, et puis il y a un moment où vous dites, on n'arrête pas de me dire tu dois comprendre que, alors que je ne comprends rien, il faut vraiment m'expliquer.
Oui.
Il faut jouer un peu les naïfs aussi,
bien sûr,
parfois. Hein.
Bien sûr.
Bien sûr. On va écouter de la musique parce qu'il y a aussi beaucoup de musique et d'hommages à la musique. Il y a quelques années, vous jouiez du banjo. Avant ça, je crois que je vous ai connu avec un ukulélé. Alors aujourd'hui, M. Sfar apprend la guitare.
Oui, je me suis beaucoup rapproché du monde de la guitare manouche et je vais les écouter tout le temps. Je vais écouter Steven, je vais écouter Franck. D'abord, ça me fait du bien. Il y a beaucoup de points communs avec le dessin et moi, je vois de l'espoir dans ce qu'ils jouent. L'idée que le plus grand musicien de Paris, ce soit Django Reinhardt, l'idée que la France soit symbolisée par un manouche, moi, ça me plaît énormément. Et je dois dire, je connaissais leur musique, je connaissais pas leur peuple. J'ai rencontré dans Terre de Sang un monsieur qui s'appelle Jacques Debeau, qui est une histoire vivante des peuples voyageurs. Et qui m'a raconté énormément de choses que j'ai mis dans le livre. Moi, je savais pas qu'il y avait autant de voyageurs que de juifs en France. Ils sont 400 000, comme les juifs. Beaucoup d'entre eux sont sédentarisés depuis les années 50. Et il me dit des phrases parfois très cruelles, Jacques. Il me dit, mais finalement, vous les juifs, on sait pas pourquoi vous vous expliquez comme si quelqu'un allait vous aimer. Nous, on sait. Et je lui ai dit, mais finalement, vous êtes comme des juifs à qui on n'aurait pas donné l'État d'Israël. Et il dit, nous, on n'aurait pas voulu d'un État.
Franck Anastasio, je vais vous interroger après avec Steven. J'ai envie de savoir pourquoi déjà Johan avait voulu que vous soyez là, mais je voudrais qu'on vous écoute aussi jouer. Qu'est-ce que vous allez interpréter tous les deux ?
On va jouer un morceau qui s'appelle Chicago, qui a été composé dans les années 20, je pense, aux USA par un certain Fischer, et que Django Reinhardt a enregistré avec Grappelli et le quintet du Hot Club de France en 1936 dans les studios d'Abbey Road.
Steven porte le même nom que Django Reinhardt.
Je suis de la famille. Je suis un petit cousin de Django.
Et bien on vous écoute, messieurs, Chicago, dans le grand atelier, sur France Inter.
C'est parti.
Rien que pour nous, Johan Sfar et les auditeurs et auditrices de France Inter.
J'ose pas applaudir
à la
radio.
Oui, parce que des applauds à deux, c'est un peu ridicule, mais on applaudit fort avec le cœur.
J'adore ce qu'ils font. Ça.
En tout cas, vous êtes réjouis, là.
Oui. Chaque mot, quand ils expliquent leur musique, pour moi, ça résonne avec le dessin. On fait depuis peu de temps des concerts dessinés qui sont vraiment improvisés.
Ensemble,
oui. Bien sûr.
Tous les trois.
Bien sûr. Parlez-en, si vous voulez. Mais moi, c'est des moments extraordinaires pour
Franck
moi.
Franck Anastasio, les concerts dessinés.
C'est formidable. D'abord, nous, on improvise, on choisit les morceaux, on fait rien à l'avance. Ce qui nous inspire, on joue ce qui nous inspire. Et Johan décide ce qui l'inspire. Et ça devient, avec le temps, ça devient un petit peu interactif. C'est-à-dire qu'il arrive à terminer de dessiner, de finir son dessin en même temps que le morceau.
Ah oui.
Parce qu'il connaît ce répertoire, évidemment, par cœur.
Vous le fredonnez dans votre tête intérieurement ?
Moi, je rêve que la gouache soit un des instruments de la formation jazz. Et les mots qu'ils disent sur le jazz, moi, je pense que j'essaye de faire un dessin de jazz, en tout cas.
Mais dans le bouquin, et c'est pas la première fois, vous n'arrêtez pas, Johan Sfar, de dire « Il y a un lien incroyable entre cette musique et mon dessin.
Oui.
J'arrive pas à comprendre ce que vous faites comme lien véritablement.
Bah, cher docteur, mon père était pianiste de bal et de bordel en Algérie. Il était le pianiste du Sphinx d'Alger. Il écrivait les chansons de ma mère qui était chanteuse pop. Et quand ma mère est morte avant que j'aie 4 ans, il a fermé le piano et il est devenu juif religieux. Donc j'ai pas appris la musique. Donc j'ai fait de la peinture et du dessin. Mais je recite Sempé. Un jour, je lui ai dit, mais comment tu dessines aussi bien les musiciens? Il m'a répondu, je les dessine avec mon envie de jouer de la musique. Donc ce que vous entendez quand je dessine, c'est mon envie de jouer de la musique.
Ah, c'est une petite frustration qui échappe à la frustration. Si je...
Mais cette frustration, c'est de l'amour. C'est aller vers...
Comment Franck Anastasio a rencontré Joanne Spahr?
Mais grâce aux réseaux sociaux. Je connaissais son travail, évidemment, que j'apprécie. Et grâce aux réseaux sociaux, je vois qu'un jour, il illustre un de ses dessins par un morceau que j'ai enregistré il y a 40 ans avec un trio de jazz sur un album qui s'appelait Gypsy Guitar. Johan illustre son dessin avec un de nos morceaux. Donc, je me suis permis de lui écrire. Il me dit, non, mais j'adorerais vous voir sur scène. On passait au Bal Blomet une semaine après. On a réussi à le faire venir. Et depuis, on ne se quitte plus.
Oui. Moi, je connaissais déjà Angelo Debar, qui a joué dans le film de Gainsbourg. Et j'ai rencontré Steven il y a un petit peu plus d'un an.
Bah, Angelo Debar est un membre de ma famille aussi. C'est un grand guitariste. Alors, une fois, Johan, avec Anastasio, m'avait appelé. Tu peux jouer chez Johan pour une soirée. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas. Et puis, je ne savais pas c'était qui. Mmh. Et puis, quand on m'a raconté, je ne savais pas c'était qui non plus. Et après, j'ai parlé avec Johan, et puis le courant est passé directement, et puis on est devenus des amis maintenant, et puis on ne se lâche plus. On fait beaucoup de dîners, on fait des petits repas, on fait de la musique, je fais un peu de composition, des choses comme ça, on chante des chansons le soir quand on a bu un petit coup.
Comment vous vivez? Vous habitez où, vous?
Ah, moi, je suis en caravane.
Oui.
En ce moment, je suis vers la frontière belge. Et dans une quinzaine de jours, je vais repartir sur Compiègne, et sinon, je suis dans la région du 77, la Seine-et-Marne. Voilà, les gens du voyage, itinérant, mais on reste un peu fixe.
Et quand vous bougez, c'est pour quelle raison?
Bah, avoir de la famille, on va rester un mois chez de la famille, puis après on fait ça toute l'année. Quoi.
Vous êtes bien accueilli en Belgique et en France?
Oui, très bien.
Oui. Oui. Pas de racisme?
Non, bah, avec ma musique, ça va.
Ah, la musique aide?
Bah, aide beaucoup.
À être compris, aimé, intégré, comme on dit?
Exactement.
Ah, c'est intéressant ça, Joanne. C'est peut-être aussi pour ça que vous en parlez beaucoup dans votre œuvre.
Il y a aussi un point commun entre les Manouches et les Juifs, c'est que ce n'est pas des étrangers. C'est des gens qui sont là depuis très longtemps.
Bien sûr.
C'est des gens qui sont souvent encore plus patriotes
mais
que les autres.
Le racisme amène les gens à dire ça.
Absolument. Ils sont obligés de prouver 3 fois plus.
Bien sûr.
Il y a eu une phrase très belle de Jacques Debout. Il m'a dit, tu sais, les gens nous en veulent quand on rempaille les chaises, mais ils nous en veulent encore plus quand on est au Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il y a des réussites professionnelles extraordinaires dans cette communauté aussi. Mmh. Et ça peut créer aussi ça, des jalousies. Parce que ça
bien
surprend.
Sûr. Je voudrais qu'on écoute Eric Slabiak, je l'ai cité tout à l'heure. Il est violoniste, il est chanteur, il a créé en 92 avec son frère Les Yeux Noirs. Vous avez participé à la création, Franck oui. Anastasio. À l'époque, vous aviez commencé par la contrebasse dans le groupe.
Oui.
Et ensuite, vous avez pris la guitare, parce que vous jouez de plusieurs instruments. Vous jouiez avec eux la musique des Balkans, la musique slave, les musiques yiddish, zigane. Et voici ce que dit de cette musique Eric Slabiak.
C'est vraiment une musique qui sort du cœur, c'est une musique pour le peuple, c'est une musique généreuse, qui doit se donner généreusement, avec générosité. La musique tzigane, tout comme la musique yiddish, parle du rejet des sociétés autochtones, de tout un tas de souffrances, mais jamais de désespoir. C'est toujours positif, optimiste et nostalgique.
Une musique qui parle du rejet des sociétés autochtones, Joanne Spahr.
Oui, ça me fait penser à Chagall qui disait « Je voudrais prendre tous les juifs de mon village et les mettre en sécurité dans mes dessins ou dans mes tableaux. »
Bon,
il y a quand même cette idée de rassembler... Et je dois dire que aller au Proche-Orient pour moi depuis 2 ans, c'était ramener des visages, sauver les gens du discours politique, géopolitique,
institutionnel.
Absolument. Il y a envie de les mettre en sécurité. Quand on sait qu'il y a eu des morts, bon... Quand on voit la gueule des gens, quand j'ai des gars en Cisjordanie qui m'expliquent qu'ils ont perdu leur frère, ils ont perdu leur cousin, quand c'est dans les yeux, c'est pas la même chose. Et je souhaite que mes lectrices et mes lecteurs voient ce truc-là dans les yeux.
La guitare qui est avec vous, là, Franck Anastasio, est-ce que c'est un héritage familial? Votre père était luthier, mais aussi guitariste?
Il était guitariste, chanteur et luthier.
Il donc a dit, mon fils, tu feras de la guitare?
Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est lui qui a fabriqué la guitare sur laquelle je joue, là.
Celle qui est là?
Oui, celle qui est là, oui. Non, mais dans ma famille, on doit tout à Django Reinhardt, pour dire la vérité. En fait, ma famille vient de Sicile, ils sont venus en France avec d'autres luthiers italiens, parce que c'était la mode des guitares type Selmer, et que donc ils avaient ce savoir-faire, et ils sont installés à Paris, à Montreuil, et immédiatement, les communautés Rome et Manouche sont venues les voir pour construire ce type de guitare. Mon père m'a communiqué d'abord la mort de la guitare et de Django Reinhardt, puis après c'est devenu mon métier, mais c'est vraiment Django Reinhardt qui a été déterminant.
Qu'est-ce qu'il avait de plus qu'un autre ?
La liberté. La liberté et la culture musicale aussi, parce qu'il a écouté beaucoup de choses quand il était jeune. De la musique classique française aussi. Il s'est beaucoup inspiré de Ravel, de Debussy. Et puis un jour, il est tombé en amour avec... on lui a fait écouter un disque de Louis Armstrong. Et il a su que c'était la musique de sa vie. Donc il s'est beaucoup inspiré d'Armstrong au tout début de sa carrière. Et ensuite, lui, avec sa liberté, à cause de son handicap aussi, qui lui a permis de développer une technique très particulière et un phrasé très particulier. Il est l'inventeur d'une musique qui est devenue... c'est un mouvement mondial maintenant, ça se joue partout, il y a des hot clubs partout. On peut vraiment jouer sur cette musique sur les 5 continents, et sans parler la langue, et on arrive à se retrouver sur un répertoire commun.
Je comprends musicalement.
Steven, vous, il était qui pour vous, Django ?
Alors moi, mon arrière-grand-père s'appelait Roger Reinhardt. C'était le cousin de Django. Ils restaient ensemble à l'époque. Avant, il y avait beaucoup de bidonvilles, on appelait ça sur la Courneuve, à Stein, et puis aussi à Quillancourt, qui est le périphérique. Avant, c'était un bidonville aussi. Mon arrière-grand-père voyageait avec Django, tout ça, était guitariste aussi. Et on le retrouve dans un film, mon arrière-grand-père, ça s'appelait Les Princes. Ah, je ne sais plus en quelle année, je l'avais vu, c'est un film en noir et blanc. Et c'était la première fois que je voyais mon arrière-grand-père.
Ah, c'est touchant,
on
n'a
pas beaucoup de photos de chez nous, il y a beaucoup de... Ben, ils ont connu la guerre, ils ont perdu beaucoup d'objets de valeur, de photos, d'objets. Ça fait qu'on doit avoir 2-3 photos, puis de mon arrière-grand-père, puis ce film, quoi.
Et Django Reinhardt, pour vous, c'est qui ? Parce que vous avez vous êtes jeune, vous avez
moi,
la trentaine, vous.
Moi, j'ai 36 ans. Hein.
Oui, ouais. Donc ça peut sembler très loin.
Arrière-grand-père, c'était son cousin. Voilà, c'était de la même année, 1910.
Et sa musique vous parle ?
Bien sûr, j'ai appris à l'enfance. Hein, j'avais 5 ans, je commençais à jouer du piano. Voilà, avec mon père. Et puis après, à 6 ans, avec mon grand-père Jim Vess, si on est de la famille Vess, parce que Django était Reinhardt et Vess aussi. Il portait le nom de sa mère, Reinhardt. Et son père était Vess.
Quand vous jouez aujourd'hui ce qu'il a pu jouer lui-même, vous avez l'impression d'être connecté à Django Reinhardt ?
Bah, c'est même pas connecté, c'est une façon de vivre, quoi. C'est normal, quoi. C'est comme si quand on a 18 mois, on apprend à marcher, on va marcher. Nous, pour nous, la musique, quand on est jeune, c'est pareil, quoi.
On respire Django Reinhardt.
Nous, à l'époque, on jouait pas au ballon, on jouait à la guitare. C'était pas par obligation, c'était de nous-mêmes, c'était naturel, quoi.
On jouait à Django Reinhardt.
On savait qu'on devait être guitariste, quoi.
Il y a eu un film, d'ailleurs, en 2017, avec Reda Kateb dans le rôle de Django Reinhardt et Cécile de France. Là, on est en 43, pendant l'occupation allemande. Les Allemands veulent absolument de la joie, de la musique. Ils veulent que les salles de spectacle fonctionnent. Et elles fonctionnaient. Et on venait entendre le plus grand musicien de France, Django, alors qu'il était tzigane et que les nazis, évidemment, exterminaient juifs et tziganes. Voici un extrait de ce film d'Étienne Comard.
T'es heureux, épanoui ?
Bah, j'ai pas un plan.
Je vois ça. Tes copains te déroulent le tapis rouge. Tu profites du marché noir. La belle vie, quoi.
C'est pas ma guerre, ça. C'est la guerre des gadgets. Nous, les Tziganes, on n'a jamais fait la guerre.
Un peu facile, non ?
Je suis musicien, oui. Je joue de la musique. C'est ce que je sais faire le mieux. Après, qui c'est qui vient m'écouter, ça, c'est pas mon problème.
Tu parles pour moi, là ?
Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi, le King of Swing. Les gens, ils aiment ça, ils en redemandent. Ben, moi, je leur donne.
Tu fais ton numéro de singe savant. C'est du cirque, pas de la musique.
Tu crois ça ? Mmh. Peut-être. En tout cas, le public aime ça, et puis moi, ça me permet de nourrir ma famille.
Quand t'écoutes le silence la nuit dans Paris, t'entends pas un autre genre de musique ?
C'est qui ce clown, là ?
C'est Hitler.
Ah bon ? Elle est naze, sa moustache.
Naze, ouais. Pas comme la tienne.
Intéressant de savoir qu'il a été là pendant la guerre et qu'il a une forme de recul, même d'inculture par rapport à la réalité. Est-ce qu'il était un peu dans sa bulle ? Vous qui écrivez avec des bulles,
c'est pas le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment qu'il y avait...
Il dit « c'est pas ma guerre ».
Il avait une phrase, je sais pas s'il a dit ça, il y a une phrase qu'il a dit, il disait « la musique c'est pour les oreilles ». Il voulait pas aller jouer en Allemagne, il a pris de gros risques pour pas aller jouer en Allemagne. Et c'est vrai qu'il aurait été sauvé en passant la frontière suisse par un garde-barrière qu'il a reconnu, parce qu'il a reconnu sa main.
Franck, vous dites deux ?
La musique l'a sauvé deux fois. Une fois parce qu'un officier allemand l'a reconnu et il était fan de sa musique, et une fois en effet au passage de la frontière suisse. Et ça me fait penser à une phrase qu'un jour m'a dite un danseur tzigane de Russie. Il m'a dit, tu sais mon frère, il faut pas aimer que les musiciens tziganes, il faut aimer tous les tziganes.
Bien sûr. Le génocide des tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils appellent Samoud Aripen, c'est quelque chose qui est peu enseigné, peu documenté. Et là encore, une phrase terrible que m'a dit Jacques Debout. Il m'a dit, tu sais, quand il y a des reportages sur la Shoah, ils invitent des juifs. Quand il y a des reportages sur le Samoud Aripen, ils n'invitent pas des manouches. Et c'est des voix qu'il faut entendre pour dire leur propre histoire.
Lui, il est rentré, Django Reinhardt, dans votre vie comment, Johann Svarr ?
Depuis toujours. Mon père jouait du jazz et m'en faisait entendre, et c'est une source de joie. C'est tout simplement une source de joie, et pour moi, je suis pas patriote. Je suis patriote de Paris. Je suis un patriote urbain. Pour moi, c'est la musique de Paris.
Oui, vous dites dans le bouquin que vous voulez pas aller vivre en Israël, que vous êtes très bien en France, et que vous voulez rester en France.
Ouais, je dis ça, puis je dis l'inverse la page d'après. Le problème, c'est que c'est très addictif. Déjà, j'avais beaucoup d'amis israéliens, maintenant j'ai beaucoup d'amis palestiniens, puis il me manque. Donc, moi, ce qu'il y a sur ma carte d'identité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Être proche de mes amis et être paisible. La vie en France n'est pas paisible depuis 2 ans, peut-être parce que ma tête ressemble à une étoile de David, donc j'en paye un peu les frais. Je souhaite vivre paisiblement, et avant, c'était possible de vivre paisible en France et de vivre paisible au Proche-Orient. Maintenant, c'est plus possible nulle part, donc dans ce nulle part, je fais des dessins.
Est-ce que la vie a changé pour vous en France depuis le 7 octobre ?
Absolument. La vie a absolument changé. Il y a plus d'espace neutre pour moi en France. Je ne dis pas qu'on me tape dessus tous les jours. Je dis juste qu'il n'y a plus de neutralité. Et moi, mon métier, c'est d'être paisible dans un café et de dessiner. Malheureusement, la vie a changé aussi pour moi au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'avant, j'étais l'auteur du Chat du Rabbin qui met ensemble des Juifs et des Arabes dans un récit féerique. Là, le réel est affreux partout. Je ne vais pas cesser de dessiner maintenant que c'est affreux. Donc, j'espère que ça va se calmer et j'espère que je pourrai être à nouveau heureux partout.
Par moments, sensible et chancelant.
Caché, 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 la vie comme un grand mystère, une énigme, un caractère, trempé, trempé, trempé.
Mais vers où coule la rivière? Dans quel sens, quel hémisphère? Chercher, 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 nos deux corps dans la lumière.
Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants. Des êtres vivants, chahutés par moments, sensibles et chancelants.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Johann Sfar, je rappelle que vous avez parcouru plusieurs villes en Israël, Tel Aviv, Jérusalem, Ramallah, Hébron, Naplouse. Dit comme ça, ça a l'air très simple. J'imagine que c'était un petit peu plus compliqué au quotidien de voyager en Israël.
Ce qui est compliqué, c'est de ne pas se trouver embringué dans un voyage organisé avec un narratif organisé. Donc j'ai refusé toutes les choses organisées. Je tiens encore à remercier Léonore Veil, grâce à qui j'ai pu aller très naturellement dans les villes palestiniennes sans l'attirail.
Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain.
C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain, qui habite là-bas depuis plus de 20 ans, qui est très à l'aise là-bas, et également Nicolas Cassianides, le consul général de France à Jérusalem, qui a une vraie vie d'OSS 117 parfois, c'est-à-dire que c'est la petite voix française au milieu de territoires bons, et il m'a un peu emmené avec lui dans son 4x4 où il va visiter des industriels palestiniens, des gens de la société civile palestinienne. Moi, les étudiants palestiniens, ça m'a bouleversé, parce que moi, on m'a toujours dit, dès que quelqu'un se croit différent des autres, t'es sûr que c'est un con. À Naplouse, j'ai vu les mêmes étudiants que je vois à Nice, que je vois à Paris, des jeunes gens qui veulent se marier, qui veulent avoir des enfants, qui veulent avoir un métier. J'ai pas pu entrer à Gaza. Seul Jean-Pierre Filu est entré à Gaza depuis 2 ans en se faisant passer pour un humanitaire. En revanche, je crois que je suis allé partout et j'ai cherché une normalité, c'est un bien grand mot en temps de massacre, mais j'ai cherché des gens auxquels tout lecteur pourra s'identifier, en disant, tiens, ce qu'il me raconte, c'est incontestable. Il me raconte son quotidien, c'est insupportable, et on peut pas faire comme si on n'avait pas vu, comme si on n'avait pas entendu.
Votre curiosité, votre sérieux, mais aussi votre besoin de faire la fête, de jouer de la guitare jusqu'à pas d'heure en buvant un peu d'alcool, votre envie de joie, tout simplement, dans un monde fracturé. Il y a un ami à vous qui résume très bien cette personnalité qui est la vôtre, il s'appelle Mathias Malzieux.
Avec lui, tu peux autant parler d'un point très précis, aller très loin et être très sérieux, mais dans la seconde d'après, faire le débile complètement, et c'est vachement agréable. Tu te sens pas jugé, t'es pas dans une caste ou dans un machin, un télo, je sais pas quoi, t'es juste avec un être humain curieux.
Ça m'intéressait d'entendre Mathias Malzieux dire ça, vous raconter, presque vous dessiner, parce que là-bas, vous devez être aussi comme ça. Quand vous parlez pendant des heures à un jeune étudiant palestinien, je suis certain que vous partiez pas d'un seul coup, mais qu'il y avait un autre moment.
Oui, d'abord, j'adore Mathias. Ma grande joie, c'est de lui avoir offert son premier ukulélé. C'est un type extraordinaire. Et ensuite...
Vous avez dessiné une de ses pochettes.
Oui, je le dessine tout le temps. Et ensuite, je suis très corruptible. Moi, dès que je vois des gens qui ont des grands sourires et qui m'emmènent avec eux, une personne qui a été très importante dans le livre aussi, c'est Samir Joubran. Samir Joubran, c'est le leader du trio Joubran, et ils ne supportent pas qu'on dise d'eux qu'ils sont des musiciens palestiniens. Ils disent, nous ne sommes pas des musiciens palestiniens, nous sommes de fiers musiciens de Palestine. C'est-à-dire que leur art est premier et transmet leur discours. Et là encore, ce sont des moments de normalité, où on est ensemble, où il prend un instrument, où il me force à chanter en arabe, qui est une langue que je ne connais pas, donc il m'explique les syllabes. Et une chose que je voulais dire au sujet de Franck, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, quand il veut chanter dans une langue, il apprend la langue. Il apprend l'italien, il apprend, je ne sais pas, toutes les langues que tu parles. Et moi, la seule fois de ma vie où j'ai dit des mots en arabe, c'est quand Samir m'a fait chanter une chanson à laquelle je ne comprends rien.
Vous voulez nous la chanter a cappella ?
Mais je ne la sais plus.
Franck Anastasio, j'ai appelé Eric Slabiak, le violoniste et chanteur du groupe Les Yeux Noirs, et aujourd'hui de Joseph Joseph, que vous accompagnez toujours.
Hein. Toujours.
Vous êtes tous les deux fidèles. D'une part, il m'a dit, c'est quelqu'un de fidèle en amitié, c'est quelqu'un d'hyper sérieux, et c'est quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc vous confirmez, Johann Sfar.
Tout ça, j'ai eu une chance folle de rencontrer ces gars, et Franck, c'est un monument vivant scientifique de la musique. C'est-à-dire que, vous savez, la première fois où j'ai présenté une BD à un éditeur, il m'a dit, faire un livre intelligent pour les gens intelligents, c'est à la portée du premier convenu, essayer de faire un livre intelligent qui s'adresse à tous. Tous mes copains, c'est ça, c'est des mecs surcultivés, mais tu le vois pas, ils te parlent normalement, ils te servent une bière, ils te racontent... Et tout d'un coup, t'as appris plein de trucs, tu sais pas comment.
C'est important de connaître l'histoire de la musique qu'on joue, Franck Anastasio ?
Ah oui, je crois. Je crois vraiment. Et lorsqu'on chante des langues qu'on ne parle pas forcément, comprendre au moins ce qu'on dit, c'est vraiment primordial, parce qu'on peut apprendre une chanson phonétiquement, si on a un peu l'oreille musicale, ça pose pas trop de problèmes. Mais chanter un texte sans en comprendre vraiment le sens, sur scène, c'est compliqué.
Donc vous parlez quelle langue ?
J'ai des notions de tzigane, j'ai des notions de russe, j'ai des notions de roumain, en fait suffisamment pour pouvoir comprendre ce que je chante, et aussi suffisamment pour pouvoir un peu comprendre les gens de la communauté tzigane, les roumains, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Eric, beaucoup avec des roumains, je travaille depuis 40 ans avec des russes, j'ai vite compris que avoir des notions de russe était primordial pour comprendre leur façon de penser, leur façon d'être, et la façon aussi dont il fallait jouer la musique. Tout est lié aux langues.
Le yiddish, vous avez des notions ?
J'ai des notions aussi.
Oui, ça semble effectivement indispensable. Joanne, vous avez découvert quoi d'autre là-bas ? À part la tristesse que je signalais tout à l'heure, parce qu'elle revient de façon récurrente, même si vous avez des moments heureux. Vous citiez des étudiants palestiniens, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais vous avez aussi des larmes en face de vous.
Moi, je pleure tout le temps, donc ça, c'est facile. J'ai découvert des gens d'une beauté qui font que j'ai envie de les dessiner.
Mais c'est drôle parce que vous leur dites « Oh, monsieur, vous êtes beau ».
Vous êtes beau. Vous êtes beau.
Chirurgien,
vous êtes beau. Et sa femme dit « Lui répète pas trop ». Je suis amoureux des gens. Et il y a ça. Et je m'entends dans le même livre dire « Je suis complètement athée et je suis très religieux ». Voilà, j'en suis là. C'est-à-dire qu'il s'est passé des événements bibliques pendant 2 ans. Quand on a appris le destin de la famille Bibas, il y a eu un arc-en-ciel sur tout Tel Aviv, tout le pays l'a vu. Quand des incendies ont eu lieu à Jérusalem qui n'avaient pas eu lieu depuis l'incendie du Temple en 70 après Jésus-Christ, on a vécu un moment biblique. Le moment où je vais au mur des Lamentations déposer mon petit papier, en hébreu on dit « Écoute Israël, schéma Israël, moi j'ai dit Éternel, regarde-nous ». Parce que c'est là que j'allais avec mon père quand j'étais petit. Donc on fera pas sans nos vécus mystiques. Donc je pense que toutes mes révoltes contre la mystique, elles n'ont plus cours aujourd'hui. Je vais avec tous mes outils, et parmi mes outils, il y a aussi ce monothéisme qui nous écrase, mais sans lequel on n'a pas de langue.
Je trouve que votre œuvre, elle gagne en gravité depuis le 7 octobre.
Je ne sais pas si c'est un gain, mais c'est vrai que je n'allais pas bien. Et maintenant, docteur, ça va mieux, grâce au livre. Et j'ai hâte de refaire des fictions. Et moi, je suis sur Terre pour m'amuser. Je suis sur Terre pour faire Le Petit Vampire, Le Chat du Rabbin et pour faire marrer les gosses. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, je rencontre Steven, première nuit ensemble, il boit et tout, et puis il me dit « Je vais te jouer quelque chose ». Et il mélange une histoire d'amour et un morceau de Michel Legrand. Il dit « Parce que ma tante aimait ça ». J'ai eu l'impression d'être avec sa tante.
C'était la mère d'Angelo Debar. Ma tante Sonia.
Donc un grand musicien.
Entier, bien sûr. Quand j'étais jeune, elle aimait bien chanter. J'aimais bien faire la fête chez nous, vers les Vesses. Et ma tante, elle aimait bien chanter d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour.
Une histoire d'amour.
Voilà. C'était de qui ?
Love Story.
Voilà, exactement. Et de Les Parapluies de Cherbourg.
Que voilà. Va nous chanter Joanne.
Voilà.
Non.
Elle aimait bien mélanger les deux, puis on s'amusait comme ça, puis c'était bien. Des souvenirs d'enfance.
Et vous buvez quoi quand vous buvez ensemble ?
Ce qu'il y a à la maison.
Ce qu'il y a.
Vodka.
On a du vin pétillant d'Italie, qui s'appelle Fourlani. On a de la vodka, on a des bières, et parfois il y a de l'eau, mais rarement.
Ouais. Il y a de la joie chez Joanne Svaar, malgré le contexte international, et précisément au Proche-Orient. Le voyage a dû être bouleversant. Ça a duré 2 ans, donc ça a dû être quand même très secouant, Joanne.
Oui, et il y a quelque chose de très particulier avec le Proche-Orient, c'est que c'est addictif. C'est-à-dire qu'on a envie d'y être, on a envie d'être avec eux. Le côté grave, il y a certaines personnes que j'ai interviewées, je ne sais pas si elles sont vivantes aujourd'hui.
Oui.
Le côté marrant, c'est par exemple à Yafo, dans le quartier arabe de Tel Aviv, j'allais toujours chez le même coiffeur arabe, un jeune homme adorable, qui adorait me parler en arabe alors que je ne comprenais rien. Et j'avais beau lui dire « I don't understand », il s'en foutait complètement. Et j'ai hâte de revoir ce mec, parce qu'il me faisait marrer.
Un dessinateur assis à sa table 24 heures sur 24, ce n'est pas intéressant pour vous. Il faut qu'il se lève de temps en temps et qu'il marche.
Oui, il y a 2 ombres dont on n'a pas parlé, c'est Hugo Pratt et Joseph Kessel, qui sont partout dans ses ouvrages. Je pense que si...
Kessel avait fait un travail de grand reporter en Israël.
Bien sûr, qui s'appelait Terre d'amour et de feu, c'est pourquoi j'ai répondu avec Terre de sang. Et je crois que si Pratt était vivant aujourd'hui, si Hergé était vivant aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils enverraient leurs personnages voir le monde. J'ai adoré, quand j'étais petit, voir les films de Pratt en voyage dans le monde entier avec ses aquarelles. Donc, il n'est plus là, je ne suis pas à son niveau, mais j'essaye de faire ça. J'essaye de faire ce que Pratt aurait fait.
Alors, l'Italien Hugo Pratt, effectivement, il est dessiné encore une fois. Je crois que ça fait 1000 fois que vous dessinez Pratt dans un de vos ouvrages.
Il y a eu un événement fondateur dans ma vie, c'est qu'on m'a refusé de reprendre Corte Maltese.
Et l'aventurier marin qui est le héros de Pratt.
Voilà, j'avais écrit beaucoup de choses, Christophe Blain devait dessiner, et on m'a refusé ce projet. C'est une excellente chose, parce que grâce à ça, je le fais dans mon coin.
Oui, mais vous ne savez pas dessiner sa visière.
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il a une visière très particulière, et quand on voit la vraie casquette de Corte Maltese vendue dans la boutique de Corte Maltese dans le ghetto de Venise, eh ben, elle ne ressemble pas à ça. Donc il a une casquette imaginaire.
Svaar peut prendre une page ou deux pour le raconter. Cette incapacité à décider cette
Mais c'est un vrai sujet de dessin. Et puis quand je dis Terre de sang, c'est comme si c'était Corte Maltese, sauf que c'est moi le héros. On voit bien que je ressemble à un capitaine ad hoc obèse, donc c'est pas exactement pareil. Donc ça change.
J'aimerais bien qu'on l'écoute. Hugo Pratt, c'était dans les années 70.
Je pense que, première chose, moi je suis un dessinateur. Je raconte des choses avec des dessins.
Et la bande dessinée en noir et blanc seulement ?
Bon, non, je fais des choses en couleur aussi, mais vous savez, les dessins, ils naissent en blanc et noir. Alors pour moi, c'est plus important de faire des choses en blanc et noir, et je le pense en blanc et noir, les dessins. Déjà, les couleurs, c'est quelque chose d'addictif, c'est quelque autre chose à ajouter, mais je pense que le blanc et noir, c'est plus important.
Prime, le blanc et le noir, est-ce que c'est pareil dans votre tête, vous qui dessinez avec beaucoup de couleurs ?
Oui, je suis nul en couleurs, mais je m'acharne. Je veux que les gens aient l'impression d'être avec moi quand je voyage. Donc il faut que ce soit des couleurs qu'on peut faire sur le motif, avec une petite boîte d'aquarelle, et ça crée des réactions. Tout de même, quand les gens me regardent dessiner en noir et blanc, ils en foutent. Quand ils me voient mettre un jus de couleur, et je dessine devant mes modèles. Une chose qu'ils ne savent pas, les gens que j'interview, j'ai beau leur dire « c'est une interview », comme ils ne voient pas d'enregistreur, ils ne voient pas de caméra, ils ne comprennent pas que je note tout ce qu'ils disent. Et je n'enregistre rien, donc je note vraiment tout ce qu'ils disent. Et en fait, souvent, le seul truc qui les intéresse, c'est quand ils me voient mettre un jus de couleur. Donc je sais que cette couleur, c'est la petite récompense pour m'avoir subi pendant une heure.
Et pourquoi vous n'enregistrez pas ? Parce que ce serait différent le dessin ?
C'est beaucoup plus juste quand je note des phrases qu'on me dit. Si j'enregistrais, je devrais ensuite dérocher.
Oui.
Et donc ce serait comme une bande dessinée habituelle, j'allais dire, que font d'autres auteurs. Mon petit pouvoir magique, et j'ai commencé dans les prétoires, le procès de Charlie Hebdo, par exemple, en 97, c'est de noter exactement ce qu'on dit au moment où on me le dit.
Parce que les images viennent.
Oui, parce qu'il y a aussi le jeu d'acteur. À un moment, je tombe en arrêt devant cet ancien diplomate palestinien, M. Abou Askar, qui est le sosie de mon père. J'ai un coup de foudre pour ce type, c'est Omar Sharif, il est incroyable. Et la gestuelle de ce gars qui a super mal au dos, mais qui a besoin de se lever, parce que par politesse, il n'est pas question qu'il me laisse entrer dans son bureau sans se lever, et moi, je ne veux pas qu'il se lève parce que je ne veux pas qu'il ait mal, ça se dessine. Donc, où je suis dans une ferme à Massafer Yatta en Cisjordanie, et un gars me mime la violence qu'ont subi les ados par la police locale. Et il me fait le geste des coups de poing, et il faut que je dessine des coups de poing. Donc ça, si ce n'est pas attrapé sur le moment, après on peut l'améliorer, mais je veux l'améliorer à l'hôtel. Je ne veux pas l'améliorer de retour à Paris quand je suis dans les résultats du PSG.
La violence qui a cours depuis des années au Proche-Orient, elle se dessine ?
Oui. Oui, parce que au-delà de la violence, il y a au quotidien quelque chose qui n'est pas méditerranéen, qui est de cette région-là, où les moindres discussions dans la rue... Moi, c'est typique, on me reconnaît dans la rue, on m'engueule, parce que je suis copain avec Guillaume Meurice, j'ai fait une photo avec Guillaume Meurice, les gens sont foudrages.
Il y a un type qui vous dit « Vous avez embrassé Guillaume Meurice ».
Non, il me dit « Tu as embrassé Dieudonné », parce qu'il a confondu. Et il m'attrape, il me secoue, il me prend par les épaules, je le prends par les épaules aussi. En français, on se hurle dessus. Les gens autour dans le souk ne comprennent pas ces deux Français qui se gueulent dessus. À la fin, il se calme et il me demande un selfie. Et ça, c'est un résumé absolu de deux ans là-bas. C'est-à-dire que là-bas, c'est normal d'attraper un député de la Knesset par la chemise quand on n'est pas content. Et après, on peut prendre un verre avec lui.
C'est incroyable.
Oui.
Il me semble que c'est à Ramallah qu'un Palestinien vous dise ce qui nous désole, c'est qu'on sait tout sur Israël et tout sur les Israéliens et qu'eux ne savent rien de nous.
C'est très vrai. Les deux sociétés sont totalement imbriquées économiquement. Donc, quelle que soit la solution qu'on trouvera, il faudra que ces économies perdurent. Et les Israéliens, dans leur immense majorité, prétendent connaître les Palestiniens, mais ils en connaissent très peu. Si je veux caricaturer, ils connaissent le mec qui fait leur jardin. À l'inverse, la société palestinienne connaît par cœur Israël. Ça crée une douleur, un ressentiment. Et tout le monde est persuadé de la nécessité que l'autre soit là. Et dans la même phrase, ils vous disent que l'autre doit disparaître. C'est ça que j'ai entendu pendant deux ans.
Après ce voyage, Johann Svar, et avant les futurs voyages au Proche-Orient, il y a combien de Johann Svar dans votre tête ?
J'espère un seul. J'espère un seul dans une polyphonie, dans un rapport. On m'a bien expliqué depuis deux ans que je n'étais pas israélien, que je n'étais pas palestinien, que je n'étais pas journaliste et que je n'étais pas politologue. Alors je suis rien de tout ça, je ne suis pas spécialiste. En revanche, je suis dessinateur. Ça tient en un mot. Je fais un métier de dessinateur de bande dessinée, donc je raconte des histoires. Et l'ensemble de cette trilogie, il me semble que ça raconte une histoire.
On va écouter Delphine Horviller, la rabbine et la... On dit la rabbine d'ailleurs ?
Ah, on dit comme on veut, mais je l'aime tellement celle-là.
Pourquoi vous l'aimez Delphine Horviller, rabbine et philosophe ?
Parce qu'elle est brillante, parce qu'elle a le courage de dire beaucoup de choses, en particulier sur le judaïsme, que peu de gens disent. Elle ne lâche rien contre l'antisémitisme et elle ne lâche rien dans la main tendue à l'autre et dans la paix. Elle le dit très justement, c'est notre devoir d'être aussi les porte-voix des pacifistes. Côté israélien, même s'ils sont minoritaires, ils méritent qu'on mette leur voix. Et elle le paye très cher parce qu'elle a subi des choses abominables de tous les camps depuis deux ans et je la soutiens de toutes mes forces.
Elle parle très bien de l'humour juif.
Dans les blagues juives, souvent on joue avec les mots, avec les sous-entendus, on construit des mots-valises et on joue avec le langage de telle sorte que les mots peuvent soudain dire autre chose que ce qui semble dire. Et ce décalage, ce jeu de mots, crée l'humour. Puis un deuxième ressort d'humour juif qui est l'autodérision. Finalement, les blagues juives, vous le savez bien souvent, c'est des blagues un peu antisémites, racontées bien mieux que ne le font les antisémites. C'est une façon de rire de nous-mêmes, de rire de tous ces clichés qu'on nous accole, et de dire que, décidément, on ne sera pas victime de tous ces clichés, mais qu'on va devenir pleinement acteur de ce dont on nous accuse, en étant capable de retourner ça contre nous, être dans l'autodérision. Et puis, il y a un dernier ressort, c'est la capacité à rire de Dieu, pour se moquer de sa loi, parfois, de notre rapport à l'Éternel, ou parfois même de sa façon, malheureusement, de ne pas intervenir comme on le souhaiterait dans nos histoires personnelles et collectives.
Donc l'humour juif existe bien, ça n'est pas une invention de non-juifs, Johann Svarr.
En tout cas, ce qui me semble évident, c'est qu'il y a une littérature juive, que ce soit Romain Gary, Philippe Roth, que ce soit Isaac Babel, elle est mondiale, puisque c'est des gens qui voyagent, et par son réalisme, elle trouve l'humour. Je me souviens d'une interview de Seinfeld où on dit « qu'est-ce qui fait marrer ?» Il dit « ce qui fait marrer, c'est de raconter pour soi ce qui s'est exactement passé. » Et on s'aperçoit que le réel est hilarant. Moi, quand j'étais là-bas, les moments où il y a un bombardement, on va dans un abri et un vieux monsieur juif me prend pour Riyad Satouf, il ne sait pas brosser les dents et je suis obligé de lui faire un dessin et après je ne vais plus dans les abris parce que j'ai peur de le voir.
Vous avez signé Satouf ?
Évidemment.
L'autodérision, est-ce que vous en avez, Johann Svarr ?
Oui.
Vous avez entendu, c'est primordial dans l'humour juif.
Oui, mais moi, ça m'arrange parce que je suis mon propre personnage. Donc, je suis obligé de dessiner mes défauts en permanence. Je suis obligé de dessiner mon surpoids. Je suis obligé de me dessiner avec mon t-shirt de l'OGC Nice quand des supporters du Bétard de Jérusalem veulent m'emmerder. Je suis obligé de dessiner aussi mon chagrin. Donc, il y a le moment où on découvre le destin de la famille Bibas et tout le pays est en deuil.
Rappelez en quelques mots, si c'est possible, ce qui leur est arrivé.
Donc, la maman et les deux enfants ont été otages le 7 octobre et ont été assassinés par le Hamas. Et tout le pays est en deuil quand on le découvre. C'est le 500e jour des otages. Et tout le pays fait son deuil quelque part. Moi, je ne sais pas où aller. Alors, je vais tout seul au cimetière Trumpeldor de Tel Aviv. Et j'ai l'impression d'être les manches-clous d'Albert Cohen, les valeureux d'Albert Cohen, puisque je pleure sur une tombe en tenant mon chapeau parce qu'il y a du vent, il ne faut pas qu'il s'envole. Et quand je sors de là, il y a deux dames françaises juives qui me reconnaissent. Là, elles ne m'ont pas pris pour Riyad Satouf. Je les ai pris dans mes bras. C'était émouvant. C'était drôle parce que je suis ridicule en toutes circonstances. Et j'étais seul dans ce cimetière.
Vous écrivez aussi, Johann Svarr, dans Terre de sang, qu'on va souvent, quand on est en Israël, dans les cimetières pour trouver le silence.
Oui, mais même là, on ne le trouve pas beaucoup. Ce sont des pays très bruyants. Mais moi, ça me va.
Le Grand Atelier sur France Inter.
This is why when you tell me that you love me, something you said oh a million times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hard and a symbol. My name can't remember, but whenever we're together, babe, whether I'm scared, it's you. This is why when you tell me that you love me, I must be loud and clear, be bold, not shy. I want to forever stay together where we lay, and for you to know you're always mine. You don't need no words to know just how much I love you so. A wise man said long ago,
Anani, This Is Why.
Je vais vous demander des conseils culturels pour cette semaine, soit des bouquins, soit des séries, soit des documentaires, vraiment comme vous voulez. Johann Svarr, est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller ?
Ah oui, moi je vous recommande un polar français en télévision qui s'appelle Malditos, qui est extraordinaire, qui raconte le destin de deux familles gitanes, dont une est expropriée dans le sud-ouest. C'est porté par Damien Bonnard et d'autres comédiens extraordinaires, et c'est vraiment un polar, et c'est vraiment une tragédie familiale, parce que ça implique les parents, les enfants, un meurtre, des secrets. Je suis toujours heureux quand en France on parvient à faire de bons récits noirs, et ça c'est une vraie série de séries noires, j'ai adoré.
Malditos, c'est sur la plateforme Max, avec le grand Damien Bonnard, grand auditeur de France Inter, on le salue. Franck Anastasio, vous avez envie de parler de quoi, de conseiller quoi ?
Le documentaire Zelensky, de Yves Jelan et Ariane Chemin. Parce que ce qui se passe en Ukraine me bouleverse. Le sort des Ukrainiens me bouleverse. Le sort des Russes commence à me bouleverser, parce que je pense qu'ils vont, dans pas longtemps, payer cher cette guerre. Et la façon dont Yves Jelan a traité la guerre à travers ce personnage Zelensky, qui est devenu président malgré lui, comme dans tous ses documentaires admirables, il a mis l'accent sur l'importance de la langue, donc la langue russe et la langue ukrainienne en ce qui concerne ce conflit. C'est probablement une fausse excuse de la part de Poutine à l'origine pour avoir déclenché ce conflit, mais je me rends compte que la langue est centrale dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit. Et étant originaire du sud de l'Italie, où des langues cohabitent au quotidien, c'est-à-dire qu'en Sicile, à Naples, on peut parler italien, napolitain, en mélangeant les deux langues, et il n'y a pas de problème, c'est jamais un problème. Ce qui me fait dire que le nationalisme, c'est vraiment pas bien.
Oui, vous avez des origines multiples, vous, Franck Anastasio.
Oui.
Donc il y a l'Italie.
Il y a l'Italie.
Il y avait une maman juive convertie au catholicisme.
Absolument. Voilà, je vis ça au quotidien, le mélange des langues. Et je ne comprends pas pourquoi en Europe de l'Est, ça ne peut pas fonctionner. On met toujours en avant ces histoires de minorités qui parlent le russe, ou qui parlent roumain, ou qui parlent hongrois. Où est le problème si on n'est pas nationaliste ?
Est-ce que votre guitare, elle vous amène dans d'autres pays que la France ?
Ah oui, partout.
Partout ?
On a eu la chance avec les yeux noirs de voyager dans les 5 continents. Et...
Finalement, comme le crayon de Johann Svarr, la guitare vous ouvre des portes ?
Oui, toujours.
Ça s'appelle Zelensky, on l'avait vu il y a un an ou deux, et on peut acheter ce documentaire sur la plateforme d'Arte.
Oui, c'est ça.
Je voudrais qu'on se quitte avec un souvenir, Johann Svarr. La première fois que j'ai eu la chance de vous rencontrer, vous, Riyad Satouf, et les autres, j'allais dire, Mathieu Sapin et bien d'autres, Marjane Satrapi, c'était dans un lieu que vous partagiez. Il s'appelait l'Atelier des Vosges, et c'est l'un des vôtres, Emmanuel Guibert, l'auteur entre autres du Photographe, qui nous le raconte.
Oh ben l'atelier n'engendrait pas la mélancolie, ça c'est sûr. Moi je dirais plutôt des fortes personnalités en fait. Chacun d'entre eux, c'est quelqu'un. Bon, la qualité de leur boulot, évidemment, elle était là, sensible, dans ce que je pouvais voir traîner sur les tables tous les jours. Mais ce qui était très agréable dans le cas des ateliers, c'est qu'elle était indissociable, encore une fois, de leur façon d'être, de leur faconde, du caractère de chacun, et puis de la capacité qu'on a eu vraiment à se mélanger parce qu'on vivait ensemble. Donc on allait au Cinoche, on partait en vacances. Et puis en plus, on était des scénaristes, c'est-à-dire qu'on est réputé quand même être des conteurs. Donc c'est vrai que quand l'un d'entre nous prenait la parole pour raconter un truc, on savait qu'on allait se bidonner généralement, on savait que ce serait assez bien balancé. Parce que, voilà, si Johan tient le crachoir, si Émile tient le crachoir, si Totov tient le crachoir, généralement, on a le droit à un festival de facondes, de mots auxquels on s'attendait pas, de trucs totalement anticonformistes qui sortent, de grandes vacheries par moments absolument hilarantes. Le nombre de fous rires qu'on s'est payés dans cet endroit, c'est merveilleux.
L'Atelier des Vosges, on pourrait presque faire un film qui s'intitule comme ça. Hein. C'était 15 Place des Vosges à Paris à partir de 1995. C'était à la fois une pépinière de talents et aussi des jeunes qui se nourrissaient les uns des autres, Johann Svarr.
Ça a changé ma vie. Je me suis fait des compagnons pour toute la vie. On est toujours amis, tous. On se voit toujours, tous. Et il n'est pas question de ne pas montrer nos œuvres à nos compagnons, qui n'en ont en général rien à foutre et qui parlent d'autre chose. Et c'est la chance de ma vie, de connaître toute cette bande. Marjane, Riyad, Léoïs Trondheim, Christophe Blin, Mathieu Sapin.
Le Johann Svarr qu'on a dans l'émission aujourd'hui en face de nous, avec nous, est-ce qu'il a changé par rapport à cette époque Atelier des Vosges ? Et qu'est-ce qui a changé ?
Je ne me rends pas compte.
Ne parlez pas de votre poids. Hein.
Non, je n'ai pas l'impression. Je ris toujours aux mêmes bêtises, je suis toujours copain avec les mêmes personnes. Je suis désespérément constant. Ça me va très bien.
Et s'il fallait se quitter sur une notion d'espoir après le voyage que vous avez fait et surtout Terre de sang là, que vous nous proposez avec quand même comme sous-titre « Le temps du désespoir » à RNBD, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Il y a un petit peu d'espoir parfois chez les personnes que vous rencontrez.
Moi, j'ai aucun espoir quand je vois des drapeaux. J'ai énormément d'espoir dès que je vois des individus. C'est un ouvrage qui n'en a pas l'air, mais qui parle de France et qui parle d'Europe. Je crois que la France est un lieu extraordinaire. Il faut qu'on s'en rappelle. On a un réseau de librairies qui, là, me donne de la joie et de l'espoir en permanence. Il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui ont bon cœur. Et je crois qu'il faut construire là-dessus. Et il faut construire, je ne dirais pas sur ce qui va bien, mais sur la bonne volonté qu'on trouve en France.
Ce que je lis aussi, c'est « On ne va pas s'en sortir avec du silence ».
Oui, si on passe notre vie à se traiter soit de terroriste, soit de génocidaire dans les deux camps, c'est pas comme ça qu'on amène la paix. Amener la paix, qui viendra peut-être jamais, c'est faire parler les gens. C'est faire parler les gens, même les gens qu'on n'aime pas, même les gens qui pensent l'inverse de nous.
C'était bien de vous avoir, Johann Svarr.
C'était bien d'être chez vous, Vincent.
On s'envoie des petits mots gentils. Franck Anastasio, merci beaucoup.
Merci, Vincent. Hein,
bonne musique et à vous aussi.
Merci,
bon retour en Belgique, Steven Reinhardt. David Leprince a réalisé cette émission entouré de Marion Guilbeault et Anaïs Boucher. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Raphaël Rousseau avec Anne-Laure Cochet et Théo de Lobadère pour la prise de son. Samedi 17h, ce sera la balade de Marguerite et dimanche à la même heure, le comédien Jean-Pierre Darroussin vous invitera dans son grand atelier sur Inter.